Rencontre avec Colette Brognard, écrivain du Lot, qui nous parle de ses différents ouvrages et surtout de son dernier essai sur Léo Ferré.
Je m'appelle Colette Brognard, je suis écrivain, j'ai écrit des romans, des nouvelles, des poèmes, certains se passent dans le Lot, d'autres pas, et j'ai écrit, donc mon dernier ouvrage, c'est un essai sur Léo Ferré. Voilà, que j'ai fort bien connu.
Justement, comment vous avez connu Léo Ferré ?
Alors, j'avais fait à l'université une maîtrise sur Léo Ferré, sur sa poésie, et je le lui ai apporté dans la loge, dans une loge à l'Olympia. Et il m'a remercié et il m'a dit très très bien, ben, je vous écrirai. Donc à partir de là, j'attendais qu'il m'écrive et il n'écrivait pas. Et donc, je suis retournée le voir à peu près un an après, et je lui ai dit, eh bien maintenant, je vais faire un mémoire sur votre œuvre, parce que la maîtrise, c'était pas suffisant. Il m'a dit, bon, très bien. Et là-dessus, il m'a dit, eh bien, venez au studio Barclay, j'enregistre un disque, et vous assisterez à l'enregistrement du disque. Et ce disque, c'était L'Espoir. Donc je suis allé effectivement assister à cet enregistrement et c'était très impressionnant. C'est dans ce disque que Ivry Geklis, à un moment, arrive et improvise au violon sur la chanson qui s'appelle Les Étrangers. Et c'était vraiment magnifique de voir ces deux personnages qui avaient des têtes extraordinaires, côte à côte, penchés sur les partitions avec une lumière dorée et verte dans mon souvenir, enfin c'était très très beau.
Alors cet essai, c'est un résumé en fait de deux essais, une compilation de deux autres essais, si j'ai compris.
Voilà, oui, alors en fait, donc la première partie, c'est sur sa poétique, et c'est disons une approche thématique de l'œuvre de Léo Ferré. Ça tourne autour de l'idée du temps, du mouvement et de l'espace. Mais à travers ça, j'aborde des points plus précis comme le bestiaire de Léo Ferré, les couleurs dans l'œuvre de Léo Ferré. Donc ça, c'est la première partie. L'avantage d'une approche thématique, c'est qu'on peut en fait parler de l'ensemble de l'œuvre de Léo Ferré, parce que c'est une œuvre énorme et qui peut paraître assez disparate dans la mesure où il y a 300 chansons, mais aussi un roman, Benoît Misère, et aussi des oratorios, des opéras, des essais, des préfaces sur les autres poètes. Et donc cette approche thématique permet de faire une coupe un peu transversale et de rapprocher ces œuvres et permet de montrer que, en fait, c'est vraiment une création au sens fort du terme, un univers mental et qui n'a rien d'anecdotique ou de lié aux aléas de la vie. C'est vraiment profondément ancré en lui. Et donc, dans la deuxième partie de ce petit livre, c'est un travail sur les poètes qu'il a mis en musique, que j'ai mis, et ça, c'est un travail qu'il m'avait demandé de faire pour un coffret, qui était un coffret de prestige, qui s'appelait Les Poètes, et donc ça traite de Baudelaire, enfin les poètes qui étaient dans ce coffret, à savoir Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Aragon. Et Léo avait relu, bien évidemment, ce que j'avais écrit, m'avait fait changer deux, trois petites choses dont je ne me souviens pas quoi. Et donc, disons qu'il avait donc validé, accepté ce texte-là, ce qui, à mes yeux, lui donne une valeur particulière.
En fait, ce n'était pas du tout les poètes contemporains.
Contemporains. Alors, dans ce recueil-là, il n'y avait pas de poètes contemporains. Il y en aurait eu, par exemple, comme Cosimon ou comme Segers ou d'autres qui auraient été contemporains. Mais là, c'était ces poètes-là, ça faisait déjà pas mal de... Je crois qu'il y avait 5 disques, hein, c'était quand même assez énorme déjà, comme compilation. Et c'est les poètes qui sont, selon lui, et je pense que pas mal d'autres personnes seront d'accord avec cette approche, les poètes qui vont être quand même les fondateurs de la poésie moderne, qui vont être eux-mêmes extrêmement novateurs, que ce soit Baudelaire, et sont aussi des poètes qui vont bousculer les mentalités, puisque quand même globalement sont des poètes qui ont été contestés, qui ont été un peu maudits pour la plupart, voilà, pour des raisons très diverses là aussi. Et c'était quand même des gens qui dérangeaient. Donc c'est pas non plus par hasard si Léo est allé vers eux. C'est à la fois parce qu'ils étaient novateurs en tant que poètes et qu'ils dérangeaient la société dans laquelle ils vivaient.
Pourquoi le titre « Vienne le temps » ?
Alors, « Vienne le temps », en fait, c'est un titre qui m'est venu très tardivement. J'étais en train de travailler sur le livre, sur la maquette, et comme il y avait deux textes dedans, il fallait quelque chose qui les réunisse un petit peu. Et en fait, « Vienne le temps », il y a des guillemets et il y a des points de suspension. C'est une phrase, enfin, c'est un vers de Léo Ferré qu'il a écrit dans « Franco la muerte ». Franco la muerte est une chanson qui évidemment s'adressait à Franco en Espagne, et Franco était toujours au pouvoir quand ça a été écrit. C'est un texte très violent, et dans ce texte, il dit « Vienne le temps des poésies qui te videront de ton lit quand les couteaux feront leur nid au cœur de ta dernière nuit. Cette nuit de la désirade à l'aube claire des grenades dans l'Espagne des camarades. Espagne à la vida. » C'est un texte très très fort où il accuse Franco d'avoir tué Lorca, donc un poète, etc. Et je ne sais pas très bien pourquoi ce titre m'est venu comme ça, « Vienne le temps ». Bon, évidemment, il y a une chanson de Léo Ferré très connue, c'est « Avec le temps ». Et là, c'est un peu différent. « Vienne le temps, il va se passer quelque chose ». C'est un peu un espoir, c'est une ouverture. Alors qu'avec le temps, c'est une chanson qui est quand même triste et qui finit assez mal, on va dire.
Vous n'êtes pas à votre premier livre avec Léo Ferré et sur Léo Ferré aussi, puisqu'il y en a sorti d'autres ici.
Oui, alors au niveau essai, sur Léo, c'est le seul. Par contre, donc il y a 2 ans, j'avais sorti un recueil de nouvelles qui s'intitule Ricochet. Et il se trouve que dans ce recueil, il y avait 2 textes sur Léo Ferré. Mais c'était un hasard, je ne savais pas qu'on allait me demander ce travail-là. Et un des 2 textes s'appelle « Coïncidence » au pluriel. Alors j'ai vraiment l'impression que c'est un peu des clins d'œil, et comme déjà dans ce texte, dans cette nouvelle, je raconte des coïncidences un peu troublantes qui se passent entre Léo et moi, bien entendu j'extrapole peut-être, hein, d'autres y verraient peut-être que des hasards, et donc j'avais ces 2 textes-là, donc qui étaient sortis il y a 2 ans, et puis par ailleurs j'avais écrit un roman, La Faille, que Léo aimait beaucoup, et il avait essayé, avec ses moyens, de m'aider à le faire publier. Et donc, il m'avait fait rencontrer Paul Guimard, qu'il connaissait bien et qui travaillait chez Hachette. Paul Guimard l'avait également beaucoup apprécié, ce livre. Et chez Hachette, ce n'était pas du tout le genre d'ouvrage qu'ils éditaient, les romans. Voilà. Donc, il m'avait dit qu'il avait des amis qui devaient créer une maison d'édition et que ses amis étaient d'accord pour travailler avec ce texte-là, puis quelques autres livres, ce qui aurait pour moi été formidable, parce que j'aurais été dans une maison, certainement, qui aurait eu très vite un renom. Puis, en fait, cette maison d'édition n'a pas pu voir le jour, parce que c'était déjà pas très facile en ce temps-là. C'est encore pire de nos jours, mais enfin, voilà. Donc... voilà, disons, les moments où Léo est intervenu, et aussi, oui, en effet aussi, quand mon premier recueil de nouvelles est sorti, qui était donc un recueil qui s'appelait « Ombre, silhouette et parenthèse », chez un petit éditeur du Lot qui était à Marcillac sur Célé, et Léo m'avait écrit un petit texte pour dire qu'il l'avait beaucoup apprécié, ce qui m'avait évidemment touché, et ce petit texte figure dans « Vienne le temps ». Et il a écrit ce texte à peu près 2 ans avant sa mort, donc en 91, puisqu'il est mort le 14 juillet 93.
Est-ce que justement vous pourriez nous le lire ?
Oui, bien sûr. Chère, très chère Colette, ton écriture me fait penser à l'auteur, quand elle avait un peu plus de 20 ans. Tu étais comme une alouette, pleine de tête et de sourire. Je pense qu'il y aura bientôt un autre éditeur pour d'autres ouvrages. Un assemblage pour tout cet assemblage de talents et de vertus littéraires. Le petit livre m'a beaucoup plu. Merci Colette, et à bientôt je pense. Léo Ferré.
Pourquoi avoir choisi en mémoire justement Léo Ferré ?
Quand j'ai fait ma licence de lettres modernes, beaucoup de gens allaient vers des poètes, et un des professeurs m'avait proposé un poète que je ne connaissais pas du tout, et je bougonnais, et j'ai dit non, moi si je dois faire un an un travail sur un poète, ça serait un poète contemporain, un poète qui se bat dans notre société, et ce serait Léo Ferré. Et alors le professeur a dit, bon, écoutez, essayez de trouver un professeur qui accepte votre sujet, puisque pour faire une maîtrise, il fallait qu'un professeur accepte, voilà. Et donc j'ai cherché un professeur, ça n'a pas été très facile, Et pourtant, c'était quand même en 72, donc l'université avait quand même été pas mal ébranlée par les années précédentes. Mais bon, ça a été un peu une lutte. Je pense que ça a été le premier travail à l'université sur Léo Ferré. Et maintenant, en fait, il y a une chaire Léo Ferré à Lille. Donc les choses ont bien changé, mais voilà, ça a été quand même difficile.
Alors qu'est-ce que vous pourriez dire de votre rencontre, vu que vous l'avez bien connue, de Léo Ferré sur l'ange, le poète aussi?
Oui, alors, le poète, c'est vraiment une dimension, c'est un poète vraiment extraordinaire dont on connaît vraiment très très mal, globalement, à part quelques personnes, mais on connaît très mal l'ensemble de son œuvre, qui est vraiment une œuvre très novatrice. Il a vraiment inventé énormément de choses, il a été cherché dans tous les domaines, et puis il avait la chance d'avoir la voix aussi qui lui permettait d'aller vers le public pour le faire connaître, également de manier la musique, parce que lui se voulait essentiellement musicien, il ne faut pas oublier cette dimension-là, et ça a été pour lui difficile, et il s'est vraiment battu toute sa vie, et pour faire connaître la musique, et la sienne et celle des autres, parce qu'il a toujours eu ce rapport de passeur, que ce soit pour la poésie ou pour la musique. Donc, Léo avait donc cette démarche-là, qui était en tant que poète vraiment très forte, et avec vraiment des phrases magnifiques. Bon, moi je dis aussi qu'il a inventé l'autofiction pratiquement dans Benoît Misère, alors qu'on a parlé de ça 25 ans plus tard, le slam, le rap finalement, un certain nombre d'ailleurs quand même d'artistes, de jeunes artistes lui rendent hommage à ce niveau. Donc là pour le poète, et je continue à être ébloui quand je tombe sur certains textes, parce qu'évidemment pour tout connaître c'est énorme, je continue à être toujours tout à fait étonné par la force de son verbe, l'inventivité, le don extraordinaire qu'il avait quand même, et puis ce jeu sur les mots. En même temps, il réfléchissait beaucoup sur le langage, et donc il y a un texte qui dit « le mot voilà l'ennemi, il n'y a pas d'arbre sans le mot arbre », mais bon, enfin, c'est tout un art poétique. Vraiment, c'est quelqu'un qui se remettait tout le temps en cause lui-même, hein. Il provoquait la société, certes, et non sans raison, mais lui-même, il se remettait beaucoup en cause. Bon, ça, c'est au niveau poète, et bon, évidemment, si cette étude a été faite, c'est un peu pour faire ressortir ça, puis il y a d'autres gens qui ont fait des choses très intéressantes sur lui aussi. Et puis en tant qu'homme, je l'ai donc rencontré donc à ce moment-là, au moment de l'espoir, et après je l'ai donc suivi en tournée. En tant qu'homme, il était vraiment très agréable. Alors ça, c'est aussi quelque chose que souvent les gens ont une image de lui un petit peu impressionnant, un peu souvent en colère à la télé, et puis qu'il y a des colères non sans raison d'ailleurs. Mais dans la vie courante, il était vraiment très gentil, surtout avec les petites gens. Il était d'une patience que je trouvais absolument extraordinaire. Il avait un côté bon vivant aussi, parce que c'est quand même un méridional. Enfin, faut pas oublier que c'est un méridional, je crois, hein. C'est très important. Il aimait les choses très simples. Bon, c'était quand même quelqu'un qui aimait la vie, hein, qui aimait les femmes, qui aimait la femme, enfin, qui aimait, qui était sensuel, qui, ça passe dans ses chansons, hein, il parle de tous les plaisirs, la bonne nourriture, les bons vins, il en parle hein, dans ses chansons. C'était quand même quelqu'un qui était comme ça, qui avait cette dimension, mais en même temps cette simplicité. Et ce côté, alors évidemment, moi j'avais, il avait presque 60 ans, et moi j'avais 28 ans, il avait l'âge de mon père en fait. Hein. Mais j'étais souvent étonnée, parce que pour moi, par moments c'était un enfant, et il avait des rires d'enfant, il avait des réactions très, très aimantes à ce niveau-là, et d'autres l'ont souligné, d'ailleurs je lis récemment quelque chose en ce sens. Évidemment, moi ça me surprenait, parce que quand on a 25 ans, on est très 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 grave, hein. On rigole pas comme ça, mais lui je crois qu'il avait quand même atteint un âge, et il avait passé des choses très difficiles aussi dans sa vie, qui faisait que il savait, je crois, profiter de choses très simples. Et puis en même temps, il trouvait quand même beaucoup de bonheur dans, même si c'était difficile, mais dans la musique et dans l'écriture. Léo, je l'ai beaucoup suivi donc de 74 à 84. Et après, j'ai un petit peu coupée parce que j'étais tellement habitée par l'œuvre de Léo que c'était très difficile, surtout dans la mesure où je voulais écrire, il fallait un peu couper le cordon parce que chaque fois qu'il y avait un mot, une phrase, je partais sur du Léo systématiquement. Et je connais pas mal de gens qui sont comme ça. D'ailleurs, à un moment, on ne sait plus si c'est eux qui parlent ou si c'est Léo par eux, quoi. Et j'avais quand même ce sentiment qu'il fallait un peu rompre pour pouvoir écrire, pour pouvoir trouver une écriture personnelle, authentique. Même si en fond, il peut y avoir le plaisir de jouer avec les mots et un certain lyrisme qu'on peut trouver dans certaines parties de mes livres, quoi, et qui vient de Léo, bien entendu. Certainement, mais voilà. Alors, effectivement, c'est sans doute lui. Bon, j'avais envie d'écrire quand même avant de le rencontrer, hein, mais ce goût pour les mots, ce goût pour l'écriture, ça a quand même structuré ma vie. C'est aussi ce qui a fait que j'ai fait des études littéraires après avoir fait des études techniques, et puis tout ça, quoi. Donc, il y avait un attachement très fort aux mots, quoi. Le verbe est puissant, hein, le verbe. Les plus beaux chants sont des chants de revendication, mais même quand c'est des chants de douceur et d'amour, c'est bien aussi.
C'est pas compliqué de faire une thèse sur des. Parce que son œuvre, elle a continué après, d'étudier en même temps que ses produits, en fait.
Oui, si, c'est vrai, c'est pas évident. Et même là, je me suis posé des questions, parce que là, je voulais pas recommencer à travailler sur Léo Ferré, je voulais que ce soit ce travail que j'avais fait déjà. Et en même temps, dans la mesure où son œuvre était déjà énorme, même quand j'ai travaillé sur son œuvre, et certaines choses sur lesquelles j'ai travaillé, les gens ne les connaissaient pas encore. Par exemple, La mémoire et la mer, c'est un texte phare, évidemment, de Léo Ferré. Il contient, je ne sais plus le nombre de vers, 253 vers, enfin c'est énorme. Et il l'a mis en musique, une partie, en fait, mais 20 ans pratiquement après l'avoir écrit. Et il va continuer tout au long de sa vie de le mettre en musique, de le travailler, de le retravailler. Et donc, ce qui peut paraître parfois nouveau, existait déjà. Et de toute manière, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une telle nécessité dans son œuvre qu'il va y avoir des constantes. Et je pense que dans l'approche que j'ai faite, effectivement, donc il y a fort longtemps, j'ai pu quand même dégager des thèmes récurrents et tout à fait essentiels. Et je pense pas trop m'être trompée, d'ailleurs. Je me basais sur les textes, hein. Je partais pas dans des élucubrations. Et de ce fait, maintenant, il faudrait rajouter des choses. Disons, je pourrais rajouter, par exemple, quand dans cet ouvrage se termine par l'ailleurs, le rien, le silence et demain, cette espèce d'échappée quand il va se trouver en fait un peu coincé dans le monde, même un monde imaginaire qu'il a donc créé, je pourrais là y mettre des textes qui n'existaient pas encore, c'est vrai, et qui étayeraient ma démonstration. Mais finalement, ça, c'était déjà contenu dans l'œuvre. Tout ça parce que je pense que c'est vraiment un peu la marque d'une œuvre profonde, authentique et vraiment viscérale. Et donc je crois qu'à ce niveau-là, ça fonctionne. Et puis bon, d'autres après sont allés plus dans sa production récente, hein, donc parmi les gens qui ont étudié son œuvre. Donc je pense que non, je pense qu'il n'y a pas trop de... Il y a des manques bien sûr, mais c'est tellement énorme qu'il ne peut pas ne pas y en avoir, hein, bien évidemment. Mais enfin bon, vous avez quand même raison, c'est quand même un problème, mais oui, non, je ne l'ai pas trop ressenti en le retravaillant, ça. J'ai l'impression que ça fonctionnait assez bien, même avec des œuvres récentes. Peut-être aussi parce que je m'appuie sur, par exemple, Benoît Misère, son roman, qui déjà brassait sur les arts poétiques, sur toute cette réflexion, sur la langue qu'il avait déjà écrite, et même sur les poètes qu'il avait préfacés. Donc c'était déjà une approche de... Pour lui, qu'est-ce que c'était que la poésie pour lui et comment il l'a trouvée dans Verlaine ou dans Baudelaire, etc. Donc disons qu'il avait quand même déjà travaillé la question. C'est un passeur, Léo Ferré, c'est un passeur, il voulait. Hein. Il voulait être la voix des gens aussi bien dans la révolte. C'est parfois ce que les gens comprennent pas, c'est que quand il a l'air en colère, c'est une colère qu'il prête aux gens qui n'ont pas la parole. Et ça, il le dit très très clairement. Et donc c'est un passeur, et souvent qui est capable de s'effacer devant les gens qu'il passe, donc entre autres les poètes, Apollinaire, Baudelaire, etc. Et les musiciens également, avec Ravel, Debussy, Beethoven évidemment.
Alors votre livre, il est accompagné de gravures de Madame Chartrain, Pauline Chartrain. C'est une collaboration qui s'est mise en place comment ?
Oui, alors donc dans cet ouvrage qui est édité donc aux éditions La Mémoire et la Mer, donc édition créée par Léo et dont s'occupe son fils, cette petite collection-là, parce qu'il y a plusieurs collections, c'est ce qu'on appelle les étoiles, enfin ce qu'ils appellent les étoiles. Et c'est donc une petite collection et il y a presque toujours des gravures dedans, enfin des gravures ou des dessins. Et donc Marie Ferré, à un moment, j'avais vu à Gourdon, m'a dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas des gravures possibles? Mais on était vraiment au moment de remettre la maquette, donc ça a été un petit peu improvisé. Rosine Chartrain, avec qui je travaille souvent parce qu'on fait des livres d'artistes ensemble, on a aussi, on participe à une association Arbouge ensemble, on se connaît assez bien, disons. Et Roselyne a cherché dans des gravures qui étaient déjà faites des choses qui pourraient s'intégrer à la maîtrise, c'est-à-dire, il y a le mouvement, par exemple, qui apparaît très très nettement dans une de ces gravures. Il y a un cheval, puisque le cheval est abordé, fait partie du bestiaire de Léo Ferré. Il y a l'oiseau, c'était l'animal le plus présent dans l'œuvre de Léo Ferré. Donc voilà, donc c'est un travail. Sur la couverture, c'est noir et mauve également, parce que le mauve, c'était une couleur un peu fétiche de Léo. Et ma foi, elle a choisi une des gravures qu'elle avait comme ça, et qui représente à la fois l'ailleurs, l'espace, à la fois la mer. Enfin, un peu, c'est une gravure un peu abstraite, mais où on peut voir des choses concrètes. Donc je pense que ça accompagne bien. Le seul petit regret, c'est que les gravures dans l'ouvrage vers la fin sont un peu sombres. Il faudrait les éclairer un petit peu. Mais ça, c'est vrai qu'à distance, par Internet, c'est à la fois bien Internet, mais c'est quand même pas exactement pareil. Mais disons que dans le prochain tirage, on remédiera ce détail.
Regarde là ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de toute te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drape dans Paris. T'as les yeux de la mer, et la gueule d'un bateau, le marin c'est marrant, même à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, homme ou chien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient, ou Brest pour les sauver, y a toujours un marin qui rallume son voile. Regarde la taquille de la mer en elle, la marée de tantôt, de la tantôt jetée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. Ta T'as le cœur comme ces rocs vêtus de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'a accroché deux ancres aux doigts de chair, et les lignes de ta main s'assoient au fond de la mer. C'est pas comme un avril 68, le chu, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains au bout de mille nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène avec des étrangers en Bretagne, y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui file une bonne crêpe en Simon, tellement il y a fourré des tonnes de sentiments. Regarde à la tabac comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros trash. La mer à ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé, si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme un avril de mon cul dans ce bar adossé au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, l'Auchu, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là, la mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie, et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie, et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on sent. Vladimir, le chu, tu te rappelles? Vladimir, tu te rappelles? Le chu, Vladimir, 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 Vladimir.
Après cette pause musicale, vous venez d'écouter Les étrangers de Léo Ferré. Nous retrouvons Colette Brognard qui évoque son prochain ouvrage.
Alors, le prochain ouvrage, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous savez déjà?
Alors oui, oui, je le sais parce qu'il est quasiment fini. C'est un roman que j'ai écrit et qui s'intitule Le pas de deux. Le pas de deux ou pas de deux, je ne sais pas, là. Ça doit être pas de deux plutôt, il faut que je réfléchisse sérieusement à ça. Et c'est donc un roman qui se passe un peu dans le Lot, parce qu'il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui intervient, parce que dans mes romans, disons, j'en ai pas qui actuellement ait une dimension historique. J'avais écrit avec la légende de Pêchemer liée à la préhistoire, mais j'avais pas de dimension historique. Et c'est vrai que pas mal de personnes sont intéressées par cette dimension-là. Donc, il y aura, disons, le chemin de Saint-Jacques, il y a un peu le Moyen-Âge présent, et aussi la guerre d'Espagne. Donc, ça ventile quand même pas mal de siècles. Et je pense que ce sera un roman assez facile à lire, je pense, par rapport à d'autres de mes ouvrages qui, des fois, sont d'une construction plus complexe.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur vos autres ouvrages ?
Alors, ce qu'on peut en dire, oui, bah oui, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Donc, il y a 4 romans, hein, donc il y en a 2 qui se passent dans Lot et il y en a 2 qui se passent en fait partout ailleurs, hein, peu importe. Dans les 2 qui se passent dans Lot, au lieu dit, par exemple, est un roman en fait qui pourrait malgré tout se passer dans d'autres endroits parce qu'il parle du rapport des étrangers à la terre, de la mort, de la vie, donc c'est quand même assez universel. Le livre à l'envers se passe dans le Lot, mais il est assez spécial comme livre, puisqu'en fait c'est une parodie d'enquête autour du centre de Bed qui appartient, qui est à Gramma et qui maintenant vient d'être pris par le CEA, mais c'est une parodie d'enquête bien évidemment. Et à côté de ça, il y a des chapitres en chiffres arabes qui commentent le livre en train de se faire, la vie, etc. Alors c'est un livre qui est, comme son nom l'indique, hein, le livre à l'envers, on voit bien qu'il y a un petit problème. Donc il y a 2 tons très différents, apparemment 2 choses différentes, enfin 2 livres différents, mais il y a des liens qui les unissent, il y a une fusion, il y a un retournement. Mais bon, c'est vrai que c'est un roman qui est un peu, disons, un roman de la maturité, et qui regarde toute une vie d'écriture. Alors que dans La Faille, je dis des fois dans les salons, c'est un peu une boutade, c'est l'histoire d'un amour fou dans un monde barge. Et voilà, bon, j'essaie toujours d'écrire des choses assez différentes, et par les sujets, et par l'écriture. Après, bon, pour ce qui est des nouvelles, ben les nouvelles, évidemment, il peut y en avoir qui se passent dans Lot ou ailleurs. Les nouvelles, c'est pas pareil. Le problème des nouvelles, après, c'est l'agencement des nouvelles. Donc, pour Aléa, j'ai pris un agencement thématique, où autour de l'écriture, c'est assez caustique. Autour des portraits, c'est plus grave. Et autour des animaux, là, c'est beaucoup plus tendre. Et c'est dans cette partie-là qu'on trouve la légende de Pêche-Merle, par exemple, puisque c'est une légende sur la fresque des chevaux. Puis on va retrouver tout un bestiaire du Lot, les moutons, les dames blanches, les chats, les tricolores en particulier, les chiens, enfin voilà. Donc, c'est assez différent. Dans Ricochet, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a donc ces 2 nouvelles sur les hauts, mais ça, donc, c'était donc plutôt un hasard. Et puis, bon, il y en a qui sont... Toutes celles du début se passent dans le Lot, et le Lot m'inspire de manière un peu fantastico-poétique. Je m'en suis aperçu là, puisque je les ai regroupées. Alors, le principe du Ricochet, ben, il y a une nouvelle qu'on appelle une autre par un mot, une ambiance, une couleur. Et donc, c'est un fil plus ténu. Le lecteur n'est pas obligé de le suivre, bien évidemment. Et voilà, donc au début c'est le Lot, et puis après, ma foi, il peut y avoir des nouvelles sur les objets, ou quelqu'un, ils sont plutôt drôles. Enfin, il y en a des drôles, apparemment. Voilà, puis il y en a des graves, il y a un peu tous les tons. Hein. Ça, c'est l'avantage des nouvelles, malgré tout, c'est qu'on peut varier hein, les registres et les sujets.
Alors, ceux-là, ils sont édités sur Arbouge Édition.
Oui, alors ceux-là, donc le premier Textimus, là, qui était donc à Marcillac-sur-Célé. Ce livre-là, je pense que c'est un petit peu difficile de le trouver, mais enfin, on peut peut-être essayer de le trouver. Sinon, les autres sont chez Arbouge. Et Arbouge Édition, donc, c'est une association, au départ, c'est un collectif d'artistes, donc écrivains, peintres, sculpteurs, qui ont décidé de mettre leurs forces en commun pour à la fois éditer des sérigraphies, des lithographies, des livres d'artistes, des livres uniques. Et puis après, ils ont donc développé un petit secteur littéraire avec comme principe que les couvertures seront toujours faites à partir des œuvres des artistes. Je dis bien à partir, hein, c'est pas les artistes qui illustrent les écrits, hein, mais on prend dans leurs œuvres quelque chose qui correspond. Alors souvent, les lecteurs ne s'en aperçoivent qu'en lisant le livre, bien évidemment. Et ça fait des couvertures assez diverses, puisque les artistes sont différents, mais en même temps, c'est assez exigeant, parce que certaines couvertures peuvent déconcerter un peu le public, mais c'est une manière aussi d'amener, disons, l'art, hein, c'est toujours la même idée, vers le public, et parfois avec, par exemple, une couverture un peu abstraite, de les amener à franchir le pas. Et ma foi, je pense que, par exemple, le livre à l'envers est une couverture qui plaît beaucoup et qui pourtant peut surprendre, a priori. Hein. Voilà. Alors, quand les gens sont très intéressés, je leur détaille, je leur dis ce qu'il y a dans cette page du livre à l'envers. Voilà. Mais bon, c'est amusant aussi d'avoir ce principe, évidemment, qui après connaît un peu son apothéose dans les livres d'artistes. Hein, mais voilà, c'est le principe de base, systématique. Et Arbouge veut dire l'art qui bouge. Hein. Enfin, c'était l'idée de ceux qui l'avaient conçu, et ça remonte à pas mal de temps, hein, je crois. La première fois, c'était en 84. Oui, en 84. Donc, c'est quand même pas tout à fait récent. Puis, il y a eu des étapes, évidemment, diverses.
La couverture, on va aller à l'envers. Alors, ça signifie
voilà. Alors, les livres à l'envers, donc, c'est une couverture faite à partir de l'œuvre d'un peintre qui s'appelle Christian Voisin et qui est de Touraine. Et il se trouve qu'en Touraine, il y a Balzac, vivait en Touraine, enfin à Paris et aussi en Touraine. Et donc cet artiste est allé dans la maison de Balzac en Touraine et il a acheté un fac-similé de Balzac. Et donc cette page, il l'a intégrée dans son œuvre. Et cette page est une page du Lys dans la vallée de Balzac. Et c'est Balzac qui a fait toutes ces ratures incroyables. Il y en a vraiment partout. Il a tout raturé. Comme quoi l'écriture, c'est quand même fort difficile, même quand on s'appelle Honoré de Balzac. Et cet artiste, donc Christian Voisin, l'a intégré après en mettant, de la céruse dessus, en faisant des grands barrants, en barrant complètement, et en mettant des couleurs. En fait, c'était un tableau, il y avait deux personnages à côté, deux oiseaux, je sais pas très bien, enfin, c'est des personnages qui avaient une silhouette un peu particulière. Et donc, je lui demandais si je pouvais utiliser son travail en ne prenant que la moitié, en l'occurrence, un détail. Enfin, la moitié, disons, c'est à peu près ça. Et il a accepté bien volontiers. Et voilà, et parce qu'il me semblait que toutes ces ratures de Balzac et ce qu'avait fait aussi le peintre dessus, et le titre, le livre à l'envers, et toute cette réflexion sur la création, formaient un tout assez cohérent. Voilà. Et parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver une couverture à la fois originale et en adéquation avec ce qu'on a écrit.
Pour les artistes, alors, ils font comment ? Ils font appel à vous, comment ? À l'association, à l'édition pour...
Alors, il y a un peu tous les cas de figure. Il y a d'une part, il y avait le collectif fondateur, dont certains artistes étaient là au départ parce qu'ils avaient créé le collectif. Donc, ceux-là, on a commencé il y a 5 ans à exposer ceux-là, évidemment, prioritairement. Et puis, sinon, les artistes, eh bien, ils passent à la galerie, où ils envoient des dossiers, où ils envoient leur site par Internet, et ils proposent leur travail. Alors, il faut que ce soit agréé par... c'est plutôt Rosine Chartrain qui s'occupe de ce qui est d'ordre plastique, puisque elle est peintre-graveur, et donc elle a une formation aussi qui lui permet de gérer tout cela au niveau de l'art. Et voilà, donc il y a eu beaucoup d'exposants depuis 5 ans, puisqu'en fait, il y a, disons en gros, une exposition par mois entre avril et octobre, et il peut y avoir aussi bien des peintres que des sculpteurs, donc ça peut être extrêmement varié. Bon, cette année, on a par exemple exposé un artiste du Burkina Faso, parce qu'il se trouve qu'il avait des liens avec la Bastide Murat en plus du Burkina, et puis qu'il a fait des démonstrations, des coulures de bronze à la Bastide, tout ça c'était très bien, il a fait des démonstrations dans les écoles. Mais donc il n'y a pas de critères après au niveau esthétique, hein. C'est vraiment des critères de qualité, d'engagement professionnel. Voilà, alors on fait des expositions, bon là l'artiste qui est sur les murs jusqu'à la fin du mois, là ça va donc bientôt se terminer, elle est là depuis début septembre. C'est Valentina Chambrin, qui est une artiste de Toulouse, et qui, elle, travaille sur la représentation des corps liés à la nature, et le corps, le principe féminin et masculin. Donc, à chaque fois, ce sont des diptyques qui renvoient à l'homme et la femme. Alors, ça peut être à la fois relativement concret, hein, mais ça peut devenir après comme des carrés ou des ronds. Et néanmoins, on reconnaît assez bien où est l'homme, où est la femme. Voilà. Donc il faut venir, il faut présenter son travail, il faut évidemment que ce soit retenu par, disons, le collectif.
Et après, dans d'autres librairies, on peut les trouver, vos livres ?
Alors là, le problème des librairies est fort complexe parce que les malheureux sont un peu coincés dans un système de marchandisation du livre. Et donc, ils sont souvent soumis aux grands diffuseurs et ils sont écrasés par les livres de la rentrée, les prix littéraires qui vont arriver, etc. Donc, les petites maisons d'édition sont souvent pas très, 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 très bien acceptées. Alors, heureusement, il y a quand même quelques librairies qui continuent à jouer le jeu et à reconnaître la qualité et à nous accepter, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Donc on essaie, il y a quand même donc quelques librairies qui nous prennent un petit peu, mais bon, c'est pas facile. Bon, je leur jette pas la pierre, hein, je sais qu'ils sont pas mal coincés, mais il faudrait, à mon avis, que s'ils veulent sauver leur label de libraire indépendant, je pense qu'il faudrait qu'ils reviennent aux fondamentaux, comme on dit dans le jargon actuel, des libraires, à savoir lire les livres. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Les lire, et quand ils les aiment, les défendre, pour arriver à faire connaître justement d'autres auteurs que ceux qu'on voit partout, tout le temps, à la télé, à la radio, et qui envahissent les médias en permanence, quoi. Parce que ça tourne toujours autour des mêmes. Alors les journalistes le déplorent, et puis en même temps, bon, tout un système est fait comme ça, et pratiquement, ils ne peuvent pas y échapper, quoi.
Vienne le temps, il est sorti récemment, il est sorti en juillet,
oui.
Juste pendant le festival Léo Ferré de Gourdon.
Voilà, oui. Il est juste arrivé la veille donc de la conférence que je faisais le 18 juillet. Donc c'était la dernière journée du festival. Bon, il y avait des expositions à Gourdon sur donc ce festival, sur Léo Ferré, des archives, sur la guerre d'Espagne aussi, parce que la thématique c'était Léo Ferré et l'Espagne. Et puis il y avait évidemment des chanteurs, des musiciens, une jeune fille qui dansait aussi sur le texte de Léo Ferré. Et puis il y avait trois conférences, l'une sur l'Espagne, Léo Ferré et l'Espagne, d'Orville. Et il y en avait une autre avec l'approche philosophique de l'œuvre de Léo, par Auron, Stéphane Auron, qui est un professeur de philosophie à Angers, l'université d'Angers. Et donc moi, je présentais les poètes cette année, mis en musique, donc la deuxième partie de cet ouvrage. L'année précédente, au festival, j'avais parlé de la poétique donc de Léo Ferré. Et c'est ce qui avait fait que j'avais retravaillé, d'ailleurs, mon travail universitaire. J'avais donc retravaillé, enlevé tout ce qu'il y avait de trop universitaire, etc. Voilà, donc c'est sorti effectivement. Et là, je le présente dans des salons, puisqu'en l'été, je fais pas mal de salons, il y en a pas mal. Et ma foi, pour l'instant, j'ai déjà un bon accrochage. Et comme je vais essayer de multiplier les conférences, puisque j'ai fait des conférences donc au festival à Gourdon, mais j'en ai fait aussi ailleurs, entre autres à Alvignac, et beaucoup de gens ont vu cette conférence, parce qu'il y avait quand même 130 personnes. Et elle a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et partout, maintenant, je vois des gens qui me disent « j'étais à Alvignac ». Et mon livre n'était pas sorti à ce moment-là, donc ils viennent me l'acheter là. Et donc, je vais essayer de multiplier les conférences pour que ce soit dans le Lot, au Midi-Pyrénées, à Paris, pour promouvoir le livre. Et là, j'en ai une programmée, je crois que c'est le 19 février à Cap-de-Nac. Ça, c'est une date arrêtée. Il y a d'autres dates en suspens. Il devrait y avoir Cahors en janvier, mais on n'a pas encore de date. On cherche une salle. Voilà, donc je vais le promouvoir. Bon, là, je vais faire aussi des lectures de mes propres œuvres.
Et alors, on peut le retrouver, en fait, quel salon ?
Alors là, les salons commencent un peu à se réduire, à se ralentir quand même. Hein. Donc le 8 et 9, je crois, c'est le salon de Toulouse, le salon organisé par le Centre Régional des Lettres, Midi-Pyrénées. Et là, c'est à l'hôtel Palais des Congrès Baudis. Donc là, bien sûr, il y aura tous les livres. Je vous présente aussi les livres d'artistes d'Arbouges. Et puis ensuite, là, je crois qu'il va y avoir quand même un petit break, hein, parce que l'hiver n'est pas trop propice au salon, je crois. Donc c'est pour ça que je vais plutôt essayer de mettre l'accent, là, dans cette période-là, moi, sur les conférences et les lectures aussi d'ouvrages, voire même de textes de Léo, éventuellement, quoi. Pourquoi pas. Coïncidence, au pluriel et avec un point d'interrogation. Le 24 août 2004... j'avais rendez-vous avec deux exégètes de l'œuvre et de la vie de Léo Ferré. Ils avaient publié divers livres et textes à son sujet. Pour ma part, j'avais eu l'honneur et le plaisir de le suivre dans plusieurs tournées. J'avais réalisé une thèse sur son œuvre poétique et rédigé le livret du coffret Les Poètes. J'ignorais ce que ces deux spécialistes, que je ne connaissais pas, attendaient de notre rencontre. Nous nous retrouvâmes dans le salon d'un hôtel-restaurant, dans un petit bourg du Lot, région que nous fréquentions les uns et les autres et que Léo Ferré avait habité une décennie. Nous échangeons des propos sur le poète depuis un moment, quand soudain, la chanson « C'est extra » résonna dans la pièce. Interloqués, immobiles, nous cherchâmes d'où pouvait provenir cette musique. Nul appareil n'était visible. Était-ce un message de l'au-delà ? Le lendemain, lors d'une manifestation littéraire, je contai aux auteurs autour de moi cette anecdote. Ils estimèrent que Léo en était fatalement l'instigateur. D'un autre coin de la salle me parvint le nom de Ferré. J'allais leur demander s'ils avaient entendu mon récit. Non, pourquoi ? Nous disions simplement que si Ferré était là, il pourrait réécrire une nouvelle version des temps difficiles. Il y a de quoi faire. Le 24 août 2005, je présentais mes bouquins dans une foire aux livres près de la Montagne Noire. Diverses animations émaillaient la manifestation, dont un clown qui chantait en s'accompagnant d'un orgue de barbarie. Il entonna Les Amants de Saint-Jean, dont j'ignore l'auteur, et Barbarie de Léo Ferré. Il s'agit là de l'une de ses toutes premières chansons assez peu connues. Elle se termine par ces vers. Barbarie, si tu veux de l'amour, Barbarie, méfie-toi des discours, Barbarie, le bonheur est si court. Le texte me revenait au fur et à mesure que le clown égrenait la musique. Je relatais alors aux visiteurs qui s'approchaient imprudemment de mon stand qu'un an plus tôt, jour pour jour, cet extra emplissait l'espace feutré d'un hôtel dépourvu de tout moyen de diffusion. Et que, le lendemain, rapportant ce fait, des auditeurs étaient convaincus que le message venait de l'autre monde et que, simultanément, des personnes qui ne m'avaient pas entendu se réclamaient de ce poète. Aujourd'hui, fallait-il mettre en parallèle cet extra et Barbarie ? Était-ce une allusion au quotidien de Léo ou à ce que nous vivions, nous ? Que me réserverait mon maître dans un an ? Ce jour-là, lors d'un nouveau salon, l'été est propice à ces manifestations, un tout jeune homme qui venait de parcourir ma biographie voulut savoir si Léo Ferré, qu'il admirait beaucoup, connaissait Sioran. J'ignorais si Léo avait connu Sioran, d'une manière ou d'une autre. Je mentionnais qu'il avait fréquenté plusieurs surréalistes, rencontré Bachelard, Sartre, ainsi que quelques cinéastes, dont Godard. Le jeune homme choisit mon roman La Faille. En fin d'après-midi, quelque peu découragé face à une foule clairsemée, j'accrochais une photographie de Léo et de moi prise lors d'une tournée au Maghreb. Ce cliché remonte à plus de 20 ans, mais je ne l'ai reçu que récemment. Je murmurais « Léo, fais quelque chose, la vie d'artiste est toujours aussi dure ». Aussitôt, une femme s'avança et me narra avec émotion combien Léo avait été essentiel dans sa vie, comment ses chansons l'accompagnaient à tout instant, la guidaient, la maintenaient debout. Elle acheta l'autre côté. Dans un an, quel propos surgira, ou quel émissaire viendra ? Combien faudra-t-il d'années pour avoir le message complet ? Il me plaît de croire qu'un lien surnaturel existe entre nous, et que Léo Ferré me suggère des mots, parfois des textes, lorsque son âme délaisse le pont Mirabeau et Apollinaire, Verlaine et Rimbaud qui fumaillent vite et doux, à Saint-Germain-des-Prés, Baudelaire, cheveux verts au vent, goûtant une substance odoriférante. Aragon, face à l'affiche rouge, les potences et les gibets hantés par les corbeaux de Villon, les ribauds de Rutebeuf, frères humains, qui après nous vivraient, n'ayez le cœur contre nous endurci. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Je venais d'apporter les ultimes corrections à ce texte lorsqu'en feuilletant le journal du jour, la rubrique « C'est arrivé un 24 août » attira mon regard. Léo Ferré, poète et musicien, est né le 24 août 1916. Il est mort le 14 juillet 1993.
Colette Brognard vient de vous présenter son dernier ouvrage laissé sur Léo Ferré intitulé « Vienne le temps ». Vous pouvez le retrouver à Cahors, au Centre culturel Leclerc et à Jour de Fête, à Gourdon, à la librairie Labouriane, à Gramma, à la Maison de la Presse, ainsi qu'à la Bastille de Murat, à la Maison de la Presse, et puis à Saint-Céré, à la librairie Parenthèse. Vous pouvez également le commander directement à la maison d'édition Arbouge. Alors, soit en téléphonant au 05 65 31 35 66 ou par email à arbouge.edition@orange.fr ou en envoyant tout simplement une petite lettre à Arbouge 46 360 Saint-Cernin. L'envoi se fait sous 48 heures, c'est 15 euros, port compris. Bonne lecture à tous.